la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Lors de notre précédente émission, nous nous étions quittés dans l'Atlantique Nord, où nous avait emmené la migration des oiseaux marins. Cette semaine, nous remettons le cap au sud, direction la Guinée. Ouvert sur la côte atlantique, ce pays francophone d'Afrique de l'Ouest s'étend entre le Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Le 14 février dernier, l'OMS déclarait la Guinée théâtre d'un nouveau foyer épidémique du virus Ebola, après la découverte de 7 cas ayant déjà entraîné 3 morts. En 2013 déjà, une épidémie, partie là aussi de Guinée, occasionnait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, osant même une percée aux États-Unis et en Europe, avant d'être contrôlée en 2016. Une résurgence de la maladie, donc, dont l'origine présumée étonne la communauté scientifique, puisque le patient index ou patient zéro pourrait être un survivant de la précédente épidémie. Un changement de paradigme dans la façon d'envisager cette maladie qui s'inscrit dans le prolongement des découvertes publiées par nos deux invités. Avec nous par liaison numérique, Éric Delaporte et depuis Conakry, Alpha Keita. Ils sont tous les deux membres de l'équipe Transvimi, une unité de recherche qui rassemble de nombreux spécialistes du VIH et depuis plusieurs années d'Ebola. Ensemble, ils ont publié le 22 février dernier dans la revue Clinical Infectious Disease un article mettant en évidence l'existence de formes longues de la maladie Ebola avec des symptômes toujours présents chez certains survivants 4 ans après leur infection. Une étude fruit d'une collaboration entre l'INSERM, l'IRD, les universités de Montpellier et Conakry et le laboratoire guinéen Serfige, dont ils nous diront également un mot. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Donc, on est prêt. Donc, première question. Alors, donc, je l'ai dit en introduction, ce n'est pas un sujet léger et pour en prendre la mesure, une question pour le médecin que vous êtes, Éric Delaporte. Cette maladie, Ebola, qu'est-ce que c'est? À quoi elle s'attaque dans notre organisme et quels en sont les symptômes?
Alors, Ebola, c'est une fièvre hémorragique. Donc, quand on dit le mot hémorragique, on a tout dit. C'est-à-dire que quand on a Ebola, jusqu'à un passé présent, en fait, on pensait que c'était quasiment toujours la mort, parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Et puis, les acquis de la recherche de la dernière épidémie, celle de Guinée dont on va parler, a fait qu'on a pu aller plus loin sur notre connaissance de la maladie. Et en fait, en cas d'une infection par le virus Ebola, on peut soit faire une forme très peu symptomatique, soit faire une diarrhée fébrile, tout simplement. Et au début, Ebola, c'est une diarrhée fébrile. Et puis, quand ça évolue négativement, on va se mettre à avoir un syndrome hémorragique, une atteinte de tous les organes, et on finit dans une mort assez terrible. Et alors, c'est ça le problème d'Ebola, c'est qu'au début, c'est une maladie sans symptômes très spécifiques. Et comme c'est très contagieux par le contact, par les fluides, ce sont souvent les soignants, en première ligne, qui vont être contaminés par cette maladie qui était jusqu'à présent toujours létale.
Alors justement, quel mode de transmission on relève pour Ebola?
Alors, la transmission, c'est avant tout par le contact. Donc, la grande différence avec le Covid, c'est que c'est pas aérien. Et donc, c'est quand même plus facile à contrôler. C'est facile à contrôler, mais en même temps, c'est compliqué parce que lorsque une personne décède, il y a des rituels à respecter, il faut toucher le corps, etc. Et c'est à ce moment-là, lors des rituels, qu'il va y avoir beaucoup de cas de contamination. Et puis, comme je le disais précédemment, le problème également, c'est pour les soignants qui ne sont pas informés, quand ils vont toucher les patients, quand ils vont toucher les fluides, ils peuvent se contaminer. Donc, avant tout, le contact direct avec des liquides biologiques infectés.
Et donc, vous le disiez, c'est une maladie qui est très contagieuse. Donc, si on devait comparer, vous avez parlé du Covid, c'est devenu un petit peu notre élément de comparaison. C'est beaucoup plus contagieux que ce qu'on connaît avec le Covid.
Alors, c'est très contagieux. Par le contact, c'est très contagieux. Mais globalement, puisqu'on ne va pas être contaminé par les aérosols, finalement, la contagion globale n'est pas si énorme que ça. Maintenant, tout le monde est au courant de ce qu'on appelle le R0. Et bien, le facteur de transmissibilité, il est de 4. Alors, par exemple, pour la rougeole, il est de 25 à 30. Vous voyez ? Donc, c'est une maladie très fortement transmissible par contact. Mais globalement, quand on prend toutes les autres voies de transmission, c'est finalement pas si dangereux, pas si contagieux que ça.
Alors, Alpha Keïta, vous êtes virologue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce virus ? Est-ce qu'on sait d'où il provient ? Est-ce que lui aussi, il provient d'un animal au départ ?
Ben effectivement, jusque récemment, les hypothèses sur l'origine du virus indiquent que le virus provient de la faune et que c'est un virus... pour se transmettre à l'homme, il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et la faune. Et ce qui entraînerait à la suite, par les phénomènes de transmission interhumaine, la propagation du virus. C'est un virus qui est d'une grande famille de virus qu'on appelle la famille des filoviridés. Et dans cette famille, il y a également d'autres virus qui sont responsables de maladies hémorragiques. Tels que le virus Marburg, par exemple, est connu pour avoir été à la base de certaines épidémies, notamment en Afrique.
Et quand est-ce qu'on a observé pour la première fois cette maladie Ebola chez l'homme ? On sait les dater à peu près, les premières épidémies, ou en tout cas les premiers cas ?
En tout cas, les premières épidémies rapportées dans la littérature scientifique remontent à 1976 en RDC. Et l'année suivante au Soudan. Donc depuis là, il y a eu une longue période de latence où il n'y avait pas eu d'épidémie. Il y a eu des épidémies par la suite. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que depuis le début des années 2000, on a eu un cycle assez régulier d'épidémies qui reviennent souvent. Et en RDC, ils doivent être à leur 11e ou 12e épidémie maintenant. Et récemment, en Guinée, on a eu l'épidémie de 2013 à 2016. Et là, depuis le mois de février, la Guinée est en épidémie Ebola. Et c'est une épidémie qui est parallèle à la résurgence récente du mois de février également à RDC. Donc, ça devient quand même quelque chose d'assez récurrent et qui revient de façon régulière au sein des populations humaines.
Alors justement, Alpha Keïta, vous êtes sur le terrain et vous êtes celui qui avait confirmé ce début d'épidémie en analysant les échantillons, je crois. Aujourd'hui, quelle est la situation à Conakry ? Est-ce que l'épidémie est enrayée déjà ?
Bon, l'épidémie enrayée, on ne dirait pas que l'épidémie enrayée. Mais la tendance est stable, c'est que depuis à peu près 12 à 13 jours, il n'y a plus de nouveaux cas. Mais depuis le début, enfin la déclaration de l'épidémie le 14 février, jusqu'il y a 12 à 13 jours, le pays a quand même connu 9 décès, 14 cas confirmés. Et à ce jour, il n'y a plus de cas, mais il y a quand même des fourchettes à respecter avant de déclarer la fin de l'épidémie. On sait que la période d'incubation est estimée à 21 jours à peu près. Selon les normes nationales et voire internationales, il faut attendre deux fois 21 jours avant de dire qu'il n'y a plus de nouveaux cas et attendre une période de surveillance de 3 mois pour pouvoir déclarer la fin de l'épidémie. Donc ça, ce sont des normes qu'il faut respecter pour se dire que là, il n'y a plus d'épidémie Ebola. Et les dernières découvertes que nous avons sous nos mains actuellement et qui sont sur le point d'être vulgarisées, font que sur ces différentes dates et sur disons, l'histoire naturelle du virus, on peut se poser des questions sur la pertinence de ces fourchettes de temps pour annoncer le contrôle de l'épidémie ou pas.
Alors, Éric Delaporte, je vais plutôt vous poser une question sur les patients, sur les malades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce qu'on prend en charge au niveau médical quelqu'un qui souffre de la maladie Ebola ? Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques ?
Oui. Alors, c'est l'acquis de la dernière épidémie de Guinée de 2014-2016 qui a été énorme. D'habitude, les épidémies, comme l'a dit Alpha, c'était au fond de la forêt en République démocratique du Congo. Ça touchait une dizaine, une centaine de cas, et pour la première fois, le virus est sorti de la forêt, en point de départ de la forêt, la Guinée forestière, et puis c'est une zone frontière, ça a touché le Liberia, ça a touché la Sierra Leone, et bien sûr la Guinée, et le virus est arrivé à Conakry. Plus de 30 000 personnes infectées. Ça a été l'occasion d'une riposte internationale, parce que tout le monde avait peur d'Ebola, que Ebola arrive en France, etc., et des moyens ont été donnés. Et à partir de ce moment-là, alors que c'est un très vieux virus, qui remonte aux années, la connaissance remonte aux années 70, enfin, il y a eu de l'argent pour la recherche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trouvé un vaccin, alors qu'il n'y en avait pas, qui a été évalué en fin d'épidémie, mais aujourd'hui, il est utilisé, par exemple, pour contrôler l'épidémie qu'il y a eu récemment en République démocratique du Congo. Traitement, il n'y en avait pas. Et il y a eu des premières étapes pour essayer de trouver des antiviraux, et aucun n'a marché. Par contre, ce qui s'est passé, c'est quand, après la Guinée, la recherche a continué. Et c'est aussi un enchaînement pour le Covid, un enseignement pour le Covid. C'est-à-dire que la recherche a continué, c'est-à-dire que des protocoles génériques, c'est-à-dire prêts à l'emploi, ont été développés. Et quand l'épidémie s'est développée en République démocratique du Congo, tout de suite, il y a eu des prototypes vaccins à évaluer. Et en zone de guerre, avec les standards de la recherche clinique, des bras évaluant différentes molécules. Là aussi, plein d'enseignements par rapport à ce qui s'est fait sur le Covid au Nord, récemment. On s'est aperçu que des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps artificiels, anti-Ebola, pouvaient contrôler la phase aiguë du virus. Par contre, un antiviral qui avait été testé en fin d'épidémie, qu'on pensait être efficace, le remdesivir, n'a pas montré d'efficacité. C'est le même antiviral, d'ailleurs, qu'on a utilisé pour le Covid, avec l'absence de réussite également. Donc, pour venir sur votre point, oui, on a des cocktails d'anticorps monoclonaux qui fonctionnent pour bloquer la phase aiguë. Ça, c'est fantastique et c'est le fruit de la recherche après cette épidémie catastrophique des années 2014-2016.
Mais alors, du coup, j'ai une petite question sur le timing. Si toutes ces recherches-là ont eu lieu après l'épidémie, ça veut dire que vous avez pu mener cette recherche sans patient, sans personne malade?
Là, c'est pas d'autres recherches, mais c'est la recherche mondiale, la recherche fondamentale qui doit précéder la recherche clinique. C'est-à-dire que la recherche ne s'est pas arrêtée. Et jusqu'à avant cette épidémie qui a touché 30 000 personnes, encore une fois, peut-être parce qu'il n'y avait pas de marché, parce que ça touchait pas beaucoup de monde, etc., il n'y a pas eu de recherche sur les antiviraux, il n'y a pas eu de recherche vaccinale de fait. Il a fallu vraiment que le monde entier commence à paniquer pour qu'il y ait une recherche qui s'institutionnalise contre le virus Ebola. Vous voyez? Et donc, on était prêt, et c'est un mot-clé également, c'est la préparation aux épidémies. On a vu à quel point, pour le Covid, on n'était pas prêt. Et donc, il ne faut pas attendre l'épidémie pour répondre, il faut faire de la préparation. Et donc, il y a eu la préparation à de potentielles épidémies, comme celle de la Guinée. Et heureusement qu'il y a eu cette préparation, parce qu'en République démocratique du Congo, en 2018, il y a eu une épidémie comme jamais il n'en avait connue, qui a touché là aussi plusieurs milliers de personnes. Et là encore, s'il n'y a pas eu cette préparation, on aurait été dans une situation de catastrophe humanitaire, et ça a été grave, mais contrôlé grâce à cette recherche.
Alors justement, si on parle de cette nouvelle épidémie qui vient d'être déclarée depuis le 14 février, l'origine présumée serait un patient survivant donc de cette épidémie de 2013. Est-ce que c'est quelque chose qui est confirmé? Alors je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre à cette question, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que oui, c'est certain, cette épidémie a été réactivée par un survivant de l'épidémie de 2013?
C'est le travail d'Alpha, je laisse Alpha présenter son travail.
Alors, Alpha Keita,
oui. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que L'épidémie a été confirmée par des examens de laboratoire, notamment la PCR, qui a permis, dans un premier temps, de dire que c'est un virus Ebola. Et en virologie, on sait que pour certains types de virus, il y a des changements qui peuvent intervenir dans l'information génétique du virus. Et ces changements étant des choses qui sont connues et qui sont bien codifiées, on s'attend à avoir certaines mutations chez ces virus lorsqu'ils sont chez un hôte animal. Et ce qu'on a remarqué sur ce virus, qui a causé l'épidémie, la résurgence du virus Ebola en Guinée, c'est que l'analyse du génome, c'est-à-dire le génome entier de ce virus, a montré que ces changements, justement, ne sont pas intervenus, que le virus est resté stable pendant toute une longue période supérieure à 4 ans. Donc là, ça nous pose des questions. On se dit, là, si le virus n'a pas évolué du tout, ça veut dire que l'épidémie était causée par une source persistante. Cette source persistante, justement, la première hypothèse que l'on peut émettre, c'est que c'est probablement un hôte humain. Le virus était chez l'humain. Maintenant, dire que est-ce que c'est un survivant, parce que la définition même du survivant qui est connue là maintenant, c'est quelqu'un qui est tombé malade, qui a développé des symptômes et qui a été admis dans un centre de traitement. Et Eric parlait de nos études tout de suite, des travaux de recherche qui ont été menés pendant Ebola, dans le post-Ebola, et ces études ont permis d'apporter énormément de données à la connaissance sur Ebola et la maladie que le virus peut causer. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a un pourcentage important d'individus qui peuvent porter le virus sans développer de symptômes. Et parmi ces gens, il y a un pourcentage très important qui porte des anticorps et qui répondent à la définition des cas Ebola. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que le virus, il est reparti de ces personnes asymptomatiques ou les personnes post-symptomatiques, ou bien est-ce que le virus, il est reparti d'un survivant? Et s'il est reparti d'un survivant, est-ce que c'est une transmission d'un survivant à une personne saine, ou bien c'est une rechute de la maladie de quelqu'un qui a déjà fait Ebola?
Mais du
donc,
coup, est-ce que...
toutes ces hypothèses...
Pardon, continue, excusez-moi.
Toutes ces hypothèses sont à étayer encore un peu plus pour éviter de pointer du doigt un groupe de population, pour éviter que ce groupe de population soit stigmatisé. Parce que on sait très bien que dans le contexte guinéen ou africain ou même ailleurs, lorsqu'on pointe du doigt des individus pour dire que voilà, l'épidémie est partie de ces personnes-là, notamment les survivants d'Ebola, ça peut entraîner souvent des réactions assez violentes de l'entourage, ça peut entraîner du rejet, de la stigmatisation. Alors, globalement.
C'est une des questions qu'on allait vous poser, justement. Il y a une réelle stigmatisation donc de ces personnes en Afrique?
Mais c'est sûr qu'il y a déjà en étant un ancien malade d'Ebola, même sans les données actuelles qui disent que l'épidémie peut repartir d'un survivant, en étant un ancien malade d'Ebola, les gens sont stigmatisés, ils perdent leur travail, certains perdent leur foyer, il y en a qui sont rejetés par leur communauté, donc la stigmatisation est déjà là en étant un ancien malade d'Ebola. Et cette stigmatisation, elle sera exacerbée si on ne communique pas assez et avec les bons mots autour de ces survivants et dire aux gens que finalement, les survivants, c'est vrai, ils ont fait la maladie, ils ont été en centre de traitement, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ne peuvent pas être considérés comme étant les seuls pouvant être à l'origine de la maladie, puisque maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont capables de porter le virus et qui ne développe pas de symptômes. Si on va de façon assez précise et qu'on donne des chiffres, on pourra dire par exemple que enfin, les résultats des études que nous avons conduites en Guinée, on a vu qu'il y a à peu près 16% des individus qui avaient des anticorps et que parmi ces 16%, il y a 14% des gens qui répondent à la définition de ça. Est-ce que ces personnes aussi ne peuvent pas être à l'origine de la résurgence? Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on réussisse à étayer ces différentes hypothèses, chacun peut se considérer comme étant un probable point de départ de la nouvelle épidémie.
Et justement, du coup, vous avez publié, Lucie en a parlé tout à l'heure, en février dernier, une étude où vous mettez en avant les séquelles chez les survivants 4 ans après la guérison. Pour faire cette étude, vous avez travaillé avec la cohorte post-Ebogi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément, Éric Delaporte, combien de patients vous avez suivis pour cette étude?
Oui, alors ça a été initié à l'acmé de l'épidémie de 2014-2016. Il y a eu 1200 survivants connus. Comme je disais, Alpha, il peut y avoir des formes asymptomatiques, dont ceux-là, on ne les a pas suivis. Donc, c'était des formes cliniques réelles, des gens qui avaient été hospitalisés dans les centres de traitement Ebola. 800 qui ont été suivis à la fois, ça correspondait à un besoin humanitaire. Il faut bien voir qu'après la sortie d'un centre de traitement, une personne était déclarée guérie simplement parce qu'on ne retrouvait pas de virus dans le sang. Mais imaginez si on sort de réa sans rien. Il y avait des gens qui avaient encore beaucoup de séquelles, qui avaient encore beaucoup de problèmes, qui sont à la fois psychologiques, un syndrome post-traumatique évident, un rejet par la communauté, et en même temps, des insuffisances rénales, etc., de la dénutrition. Et dans l'urgence, personne ne s'est occupé des survivants, ne s'en occupait. Et donc, quand on nous a mandaté pour intervenir, on s'est dit qu'il fallait absolument être en place une structure de prise en charge, et ce qu'on a fait dans le cadre du projet Post-Ebogi, ça a été fait à Conakry avec les collègues infectiologues, et on a suivi régulièrement, avec à la fois clinique, psychologie et suivi virologique dans les fluides, tous ces patients, y compris les enfants, et les soins gratuits, bien sûr, il y avait même une caisse sociale pour ceux qui avaient perdu leur emploi, etc. On les a suivis pendant plus de 4 ans, même 60 mois exactement, quand on calcule par rapport à la date de sortie du centre de traitement. Et on avait déjà décrit initialement les séquelles courtes. Et là, sur le long terme, on s'aperçoit qu'une personne sur 3 encore présente des séquelles 4 ans après. Des séquelles cliniques. Et en fait, il y a plusieurs types de séquelles. Il y a celles qui sont liées à l'attaque du virus directement. C'est un peu comme le Covid. On va avoir une insuffisance rénale. On a détruit le rein. Voilà. On va avoir ce qu'on peut appeler le syndrome post-traumatique, anxiété, dépression, un peu comme dans le Covid. Et ça peut durer pas mal de temps après. On parle de Covid long, là on pourrait parler d'Ebola long. Et puis il y a quelque chose qui recoupe l'origine de l'épidémie, c'est que le virus va se mettre dans ce qu'on appelle les lieux de privilège humain. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans l'organisme où le virus va se mettre et les anticorps n'interviennent pas. L'œil, les articulations, le cerveau. Et donc ça va créer une inflammation chronique et qui peut entraîner ces douleurs sur le long terme. Et c'est cette persistance du virus à des endroits où les anticorps ne peuvent pas arriver qui sont à l'origine de la résurgence potentielle, et c'est ce qui est arrivé en Guinée jusqu'à 5 ans après. Donc vous voyez, l'Ebola, c'est une infection qui peut devenir une infection chronique avec un virus qui peut ressortir de temps en temps de l'organisme, comme pour l'herpès, pour faire simple, et on ne sait pas pourquoi, le virus qui reste au niveau du cerveau va se mettre à sortir, faire un cas clinique. Et ce cas clinique peut relancer l'épidémie. Et ça, c'est ça la grande nouveauté de ce qu'a découvert Alpha, c'est qu'une épidémie, 5 ans après, ça ne vient pas de la faune, ça ne vient pas de la chauve-souris, ça vient de quelqu'un qui porte le virus. Et donc, c'était vraiment un changement de paradigme.
Et est-ce qu'on peut parler de ces gens comme des porteurs sains? Est-ce que c'est l'idée ou pas tout à fait?
Oui, alors c'est des porteurs sains dans la mesure où ils n'ont aucun symptôme, pour ceux qui sont complètement guéris. Certains ont encore des signes d'irritation, donc certains peuvent avoir des souffrances quand même, hein, à cause de ces douleurs articulaires. Au niveau des yeux, hein, on peut avoir du virus qui reste, on va avoir une irritation chronique. Ils sont pas tous sains, parce que certains ont quand même des manifestations symptomatiques faibles, mais persistantes, avec cette persistance de virus. Ils ne sont pas contagieux. Ça, c'est un point très important. Ils vont devenir contagieux seulement quand le virus va sortir et va s'exprimer de façon cliniquement très forte. voyez. L'autre point très important, c'est qu'on a retrouvé du virus dans le sperme. Là aussi, les anticorps ne peuvent pas atteindre le virus à ce niveau-là pour protéger les cellules de la reproduction. Résultat des courses, eh ben, on peut avoir du sperme jusqu'à 600 jours après la phase aiguë. Chez la femme enceinte, on va retrouver le virus dans le lait. Et on a, dans Post-Ebola, il y avait une femme qui a sa deuxième grossesse après la phase aiguë Ebola, chez laquelle on a retrouvé du virus dans le lait maternel. Vous voyez comme ça devient très compliqué parce qu'il y a ces réservoirs viraux qui sont inaccessibles aux anticorps, peut-être inaccessibles au traitement, et qui font que le virus peut ressortir à partir de, entre guillemets, ce réservoir humain. Alors qu'avant, on pensait que le virus ne pouvait revenir que de l'animal lorsqu'il y avait une nouvelle épidémie.
Et concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une transmission soit par voie sexuelle, soit par l'allaitement de cette maladie?
Oui, alors la réponse est clairement oui. Ça a été prouvé dans l'épidémie de Guinée. Quand elle s'est terminée, bah, quelques mois plus tard, elle a résurgi à partir d'un survivant qui avait transmis par voie sexuelle. Et dans l'épidémie de la RDC du Congo qui vient de se terminer, elle s'est terminée en juillet, elle est repartie en janvier à partir d'un survivant qui avait du virus dans le sperme qui a contaminé son épouse.
Vous avez utilisé la formulation Ebola long dans les communiqués de presse qu'on a pu lire,
oui.
Donc notamment en comparaison avec ce Covid long dont on commence à parler. Est-ce que les recherches sur le Covid peuvent venir éclairer des questions relatives à Ebola et inversement?
Bah, la réponse est clairement oui. Et peut-être qu'on n'a pas pris assez en compte les avancées de la recherche sur Ebola dans le cas du Covid. Par exemple, on parle du séquençage aujourd'hui. Eh bien, pour le suivi des épidémies, c'est Ebola, en zone de guerre, au Congo, tous les patients ont eu leur séquence de fait. Alors bien sûr, ce n'est pas les mêmes chiffres, mais ça a permis de retracer les chaînes de transmission. Ici, on n'a pas eu ce réflexe au Nord, en France. Au niveau de la recherche sur les traitements, en zone de guerre, comme je vous le disais précédemment, on a pu faire une étude, ce qu'on appelle randomisée, comparer plusieurs bras. Ici, au nom de l'urgence, on ne l'a pas fait. Pourquoi au Congo, en zone de guerre, c'est possible? Vous voyez, le vaccin qui est utilisé, c'est un vaccin à moins 80. On s'est fait tout un cinéma en disant on ne va pas pouvoir parce que c'est du moins 80, la chaîne de froid, etc. Pourquoi, encore une fois, au Congo, en zone de guerre, loin de tout, on a pu utiliser des vaccins à moins 80? Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses, des acquis de la lutte contre les épidémies que le Nord n'en a pas tenu compte. Et ça, c'est vraiment, ils ont tout réinventé. Et pour le Ebola également, sur les séquelles sur le long terme, les anticorps monoclonaux, c'est ce qu'on va utiliser également aujourd'hui dans le Covid. Et effectivement, on a tendance à réinventer pour le Covid ce qu'on aurait pu déduire d'Ebola et également d'autres infections virales. Et peut-être qu'on est trop spécialisé dans le monde pour de la recherche pour essayer de s'ouvrir. Et puis inversement, tous les moyens qui sont donnés aujourd'hui sur Covid vont nous aider potentiellement pour mieux comprendre ces histoires d'Ebola long et ces histoires de résurgence virale à partir de foyers. Mais les maladies sont un peu différentes. On n'a pas ce grand syndrome inflammatoire du Covid dans le cas d'Ebola. C'est une infection virale aiguë, mais on n'a pas ensuite l'emballement chronique inflammatoire qu'on observe. Il existe, hein, puisqu'on a un dérèglement de la coagulation, mais on n'a pas cette tempête immunitaire comme on l'a décrit, où après ce n'est plus le virus, mais c'est la réaction au virus qui fait la gravité de la maladie.
Et alors, Alpha Keïta, le CERFIC, où vous travaillez, met en place une veille sanitaire sur Ebola. Si c'est le cas, vous pouvez nous expliquer comment on fait pour mettre en place une veille sanitaire face à une telle maladie?
Bon, le CERFIC intervient dans la lutte contre les épidémies en Guinée auprès des organismes du ministère de la Santé tels que l'Institut national de santé publique et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le CERFIG reste avant tout dans son rôle de centre de recherche et ce rôle de centre de recherche fait que le CERFIG intervient sur le territoire pour essayer d'apporter des preuves de l'évolution de certaines maladies à potentiel épidémique aux décideurs au niveau du ministère de la Santé pour leur permettre de prendre des décisions fondées sur les preuves. Donc, développer une veille sanitaire En tant que tel, le CERFID ne va pas le faire sans l'aval des organismes de la santé. Mais le CERFID travaillera à côté de ces organismes-là, justement, pour soutenir la mise en place d'une veille sanitaire à partir des données qu'il produit.
Très bien. Alpha Keïta, Éric Delaporte, merci beaucoup. On arrive déjà au terme de notre émission. C'est passé très, très vite. Un grand merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et vous rentrez en France prochainement, Alpha Keïta, je crois ?
Oui, oui. Dans un mois, à peu près.
Eh bien, bon retour. Et merci beaucoup à vous deux. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil. Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.